Bonjour et bienvenue dans ce podcast de l'Opéra de Rennes, réalisé par Arnaud Vasmer. Aujourd'hui, avec la création d'un opéra à partir d'un texte de Paul Claudel, l'annonce faite à Marie. Et c'est vous, Philippe Leroux, qui en êtes le compositeur. Bonjour.
Bonjour à vous.
C'est une coproduction engênante opéra et l'opéra de Rennes. Vous l'avez créé début octobre à Nantes avant des représentations à l'opéra de Rennes du 6 au 9 novembre, puis le 19 novembre à Angers. Cela dans une mise en scène de Célie Pote et un livret de Raphaël Fleury, adapté donc de l'œuvre de Paul Claudel. Et ce sera pour vous, compositeur, un premier opéra. Alors l'histoire de l'annonce faite à Marie, c'est celle de Violaine, la fille d'un homme parti à Jérusalem et qui l'a laissée fiancée à Jacques, celui à qui il a confié son domaine. Mais elle a embrassé un architecte porteur de la lèpre et sa sœur, jalouse, l'a dénoncé et a pris sa place dans la vie de Jacques, une sœur qui en a eu un enfant, mort, et qui va retrouver Violaine recluse dans une caverne avec la lèpre, qui a entre-temps gagné du terrain, la sœur espérant un miracle un soir de Noël en raison de sa foi. Voilà un rapide résumé, Philippe Leroux, de l'annonce faite à Marie entre passion amoureuse et passion spirituelle. Mais pour vous, cette histoire, qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce qu'il y avait dans ce texte de Claudel qui vous ait donné l'envie et l'idée de la mettre en musique?
Bien, écoutez, beaucoup de choses, hein, parce que j'ai attendu très longtemps avant de trouver vraiment le texte qui me convenait pour réaliser mon opéra. Et ce que j'y ai trouvé, bah, c'est comme vous dites, c'est-à-dire d'abord des passions humaines, quelque chose qui est essentiel à mon avis à l'opéra, et puis un niveau justement de spiritualité, en même temps qu'une écriture absolument magnifique. Une dramaturgie incroyablement forte et cohérente, enfin, du début à la fin. Plus on travaille, plus on a travaillé avec l'équipe de mise en scène, et plus on se rend compte à quel point chaque mot a des résonances et des connexions dans l'ensemble du texte. C'est vraiment magnifique. Et puis aussi l'écriture en vers de Claudel, donc une écriture très poétique. Et disons que c'est ça qui m'a le plus inspiré, c'est cette espèce de symbiose entre poésie et drame et dramaturgie, quoi. Voilà, ça c'est peut-être le plus fort.
Puis une langue assez étrange quand on lit le texte de Paul Claudel et qu'on n'a pas encore entendu la version que vous en donnez en musique, c'est que les personnages sont caractérisés par des langues. Certes, c'est en vers, mais parfois c'est une langue qui prend un peu des libertés avec le français, on va dire littéraire, notamment pour le personnage de la sœur Mara ou des ouvriers qu'elle va croiser sur sa route vers Violaine, avec un français qui sonne vraiment du parler très populaire. Qu'est-ce que vous en avez fait de cela? Comment cela a aussi inspiré votre musique?
Alors ça, c'est une chose que j'ai trouvé très forte dans cette pièce, c'est-à-dire qu'on a la terre et le ciel, quoi. On a à la fois les paysans avec, comme vous dites, leur parler paysan, et puis on a un niveau haut de spiritualité qui va jusqu'à un miracle. Par exemple, les paysans, je les ai vraiment traités comme des paysans. Donc c'est une scène, c'est la première scène du troisième acte, et ils ont vraiment un parler paysan. Je pense que c'est une scène très drôle, en fait. Je joue là-dessus, je joue sur les mots, et j'utilise beaucoup, en fait. Il y a beaucoup de moments avec des espèces d'envolées, on pourrait dire, je sais pas, onomatopéiques, qui proviennent vraiment du type de langage qu'utilise Paul Claudel.
Et cela dans des dialogues qui sont assez rapides, puisque la plupart du temps, à part quelques rares exceptions, Philippe Leroux, c'est un texte qui est fait de phrases très très brèves, de répliques extrêmement courtes, quelques mots à chaque fois. Cela aussi conduit le rythme de votre musique?
Ah oui, ça c'est formidable. Hein. En fait, vraiment du début à la fin, je n'ai eu qu'à m'appuyer, je n'ai vraiment eu qu'à me laisser guider, en fait, par le texte. Et évidemment, le prologue, c'est la partie, disons, qui est la plus dynamique, la plus rapide, parce que tout s'enchaîne extrêmement vite, les mots, les phrases, etc.
Alors le prologue, c'est l'histoire entre Violaine et l'architecte qu'elle a embrassé.
Voilà, c'est le moment où, en fait, elle embrasse cet homme par compassion, tout en sachant qu'il a la lèpre, et donc elle contracte la lèpre. Et après, le premier acte est encore extrêmement vif, s'appuyant toujours sur ces courtes phrases, comme vous dites. Et progressivement, quand même, on bascule vers le drame, vers la mort de Viol... Enfin, d'abord la résurrection de l'enfant, qui est absolument sublime, et puis ensuite, ensuite la mort de Violaine. Évidemment, les choses s'étirent un peu plus. Mais on a toujours cette dynamique du verbe claudélien. Ouais.
Et cela dans un texte qui indique aussi beaucoup de sons. Là aussi, je me suis posé la question en lisant le texte de Paul Claudel. Comment vous avez composé avec cela, puisque Paul Claudel indique parfois des silences dans le texte et puis indique aussi beaucoup de bruit. Il y a les sons des cloches, il y a les musiques, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient les chants surnaturels, hein. Lors de la création 1912, c'est Vincent d'Indy qui avait composé la musique. Là aussi, il y avait des indications qui, pour vous, compositeurs, vous ont servi, aidé.
Oui, beaucoup, beaucoup. Et j'ai essayé le plus possible de les respecter. Quand Claudel parle d'un silence, j'ai mis la plupart du temps, quasiment tout le temps, un silence. On entend les fameuses cloches, on entend les chants grégoriens en fond à de nombreux moments. Certains bruits, les bruits de porte, les bruits de feu. Par exemple, l'opéra commence par un son de feu, de crépitement de feu, justement, vous voyez, et la voix de Claudel qui arrive dessus. Voilà.
Et cela dans un moment particulier, hein. C'est un Moyen-Âge qui n'est pas tout à fait situé, même si on apprend dans les dialogues qu'il est question de Jeanne d'Arc, qu'il est question d'un roi qui va se faire couronner à Reims un soir de Noël. Je reviens sur ce que l'on disait au début de l'entretien, Philippe Leroux, ce va-et-vient entre ce qui est du terrestre et ce qui est du spirituel. Vous avez embrassé les deux de la même manière?
Oui, parce que pour moi, comment dire, ils doivent coexister. Enfin, je veux dire, quelque chose qui ne serait que terrestre ou qui ne serait que spirituel, quelque part, il y a quelque chose de profondément, quelque chose qui ne va pas, quoi. Enfin, c'est pour moi, il est évident que ces deux-là doivent fonctionner ensemble. Et alors, le Moyen Âge, eh ben, il est très important, dans la musique. Par justement ces chants grégoriens qui traversent l'opéra, par un travail souvent de récitation, comme sur des cordes de récitation, un peu comme la psalmodie du Moyen Âge. Pour la mise en scène aussi, il a été important au niveau des éclairages, au niveau des costumes. Par exemple, les couleurs des costumes sont déduites en fait de vitraux, de couleurs de vitraux médiévaux. Donc voilà, oui, l'aspect moyenâgeux a été très important, puis m'a beaucoup guidé aussi dans l'écriture musicale.
Et pourtant, vous avez choisi des instruments qui ne viennent pas tous du Moyen Âge, puisque s'il y a six chanteurs, il y a huit instruments, dont une guitare électrique et l'électronique, puisque chez vous, ça compte énormément dans votre travail du son. On va venir dans un instant. Ce sera l'ensemble Kern dirigé par Guillaume Bourgogne qui va créer l'opéra. C'est-à-dire que là, il y a un télescopage des époques, mais qui est au service justement de cette atmosphère d'un Moyen Âge qui est aussi une réinvention.
Mais voilà, c'est ça, c'est-à-dire que là, il s'agit, ben, un peu comme dans la mise en scène d'ailleurs, parce que par exemple, les costumes, je vous dis qu'ils sont tirés de
Vitraux.
vitraux, mais en même temps, ils ont une coupe qui est à la fois médiévale et à la fois moderne. Donc la musique, ben, c'est pareil. Vous savez, il y a quelques années, j'ai fait une œuvre assez longue qui dure 1 heure, qui s'appelle Quid sit musicus, et qui mélange, en fait, qui alterne, dans une sorte de tresse, une écriture ultra moderne en même temps des pièces médiévales de Guillaume de Machaut et des pièces du XIVe. Et à un moment, vous savez, on ne distingue plus, on ne distingue plus, on ne sait plus qu'est-ce qui est moderne, qu'est-ce qui est ancien, parce qu'en fait notre écoute bascule complètement vers un nouveau type d'écoute, quelque chose d'autre. Donc là, c'est un peu cette carte-là que j'ai essayé de jouer aussi, à travers l'électronique, la guitare électrique, mais bon, c'est une guitare électrique qui joue pas forcément ce qu'on pourrait attendre d'une guitare électrique, c'est un peu particulier, mais voilà quoi.
Parce que c'est le son qui vous intéresse, hein, depuis toujours, Philippe Leroux, dans vos compositions, vous qui avez écrit pour des instruments, pour des voix et puis pour l'électronique. Justement, comment vous situez cet opéra, ce premier opéra pour vous, par rapport à vos œuvres précédentes?
Bah, je dirais que c'est une sorte de synthèse, en fait. C'est clairement une sorte de synthèse. Bon, j'ai beaucoup écrit pour la voix. J'ai fait de multiples expériences extrêmement différentes dans mes œuvres vocales précédentes. Et là, on retrouve un peu tout. Et c'est, je dirais que c'est pareil pour l'écriture instrumentale et pour l'utilisation d'électronique. Bon, c'est sûr que la question de l'électronique, moi j'ai été élève de Pierre Schaeffer au Conservatoire de Paris il y a assez longtemps, et ça a formé mon oreille aussi, hein. Même quand j'écris pour les instruments ou pour la voix, il y a toujours présent avec moi tous ces incroyables timbres et énergie sonore qu'on peut obtenir de l'électronique.
À quel moment dans la composition vous avez ici décidé des instruments qui vont être présents? C'est pas un orchestre complet, hein, je l'ai dit, c'est 8 instruments et puis de l'électronique, donc c'est un petit effectif. Hein.
C'est un petit effectif, mais du coup qui est d'une flexibilité extraordinaire. C'est pour ça que je l'ai choisi, parce qu'on peut faire avec 8 solistes vraiment qui sont extraordinaires. Ils sont fantastiques. On était tous, quand ils sont arrivés là à Nantes la première fois, on était tous mais émerveillés, quoi. C'était incroyable. On a une flexibilité de travail qu'on pourrait pas avoir avec un orchestre. Hein. Donc c'est clair. Et puis donc en plus l'utilisation de l'électronique amène une telle palette de couleurs, de timbres, que bon, enfin voilà, c'est super riche, quoi. C'est presque mieux qu'avec un orchestre, pardon.
À quel moment
Ça
je te...
l'est d'ailleurs.
À quel moment justement ça, ils vous sont apparus ces instruments dans la lecture ou la relecture du texte de Claudel?
Oh, très vite,
Ouais.
très vite. Oui. Je dirais qu'ils sont pas liés directement à ma lecture du texte. C'est une petite sinfonietta miniature, quoi. Hein. Parce qu'on a des bois, des cuivres, piano, percussion, des cordes. Et puis cette guitare électrique. Donc c'est un orchestre miniature, en fait. Hein. C'est ce qui permet de faire à peu près tout ce qu'on veut, quoi.
Et puis, alors, il y a une voix dont on n'a pas parlé, Philippe Leroux, c'est la voix de Paul Claudel, lui-même, l'auteur que l'on
Voilà.
entendra. Est-ce que vous pouvez nous dire de quelle manière et pourquoi vous avez choisi de faire entendre l'auteur écrivant le texte?
Alors, je vais vous dire pourquoi d'abord. Ben, tout simplement parce que Claudel a travaillé 56 ans sur cette pièce. Vous vous rendez compte, c'est 56 ans, c'est quasiment toute sa vie en fait. Il a fait 4 versions. Et il le dit lui-même que en fait dans ce texte on retrouve beaucoup de lui-même et puis de sa famille, notamment bah, de Camille bien entendu, des relations avec la mère
Je rappelle, hein,
de
Camille
Claudel.
Claudel, la fameuse sculptrice.
Voilà, dont s'est inspiré d'ailleurs le metteur en scène pour un certain nombre de positions de chanteurs à certains moments. Et donc voilà, comme c'est une sorte d'autobiographie finalement indirecte, parce que c'est jamais dit, Claudel ne dit jamais, hein, ça c'est moi, ça c'est Camille, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc je me suis dit immédiatement, mais voilà, il faut qu'il intervienne dans son opéra, enfin c'est pas son opéra, mais enfin dans cette œuvre. J'ai décidé donc là j'ai sollicité l'IRCAM, l'Institut de Recherche Acoustique Musique. Pour voir si on pouvait réaliser une synthèse, une belle synthèse de la voix de Claudel, de façon à ce qu'on ne perçoive plus du tout que c'est une synthèse, que ce soit exactement la même chose que sa voix. Ce qu'on a réussi à faire, donc, en utilisant une technologie très sophistiquée de synthèse neuronale, justement utilisant l'apprentissage profond avec des réseaux de neurones, en fait, hein, qui réapprennent à partir de petits fragments de la voix de Claudel à l'imiter. Parce qu'en fait, on n'a pas beaucoup d'extraits audio, hein, de la voix de Claudel.
Non, il est décédé en
Et
55, donc effectivement, il a connu que peu de
voilà.
temps la facilité des enregistrements vocaux. Hein.
C'est ça. Et en plus, ceux qu'on a sont de très mauvaise qualité. L'enregistrement n'était pas encore de bonne qualité à cette époque-là. Ils sont faits un peu comme ça, vite fait. Lui-même était très vieux, il avait du mal à articuler. Il a un parler encore assez terrien, paysan. Hein. Donc on ne comprend pas toujours bien. Donc c'était vraiment une gageure incroyable que de refaire une synthèse imitant en fait, à la fois toutes les qualités de sa voix, mais aussi tous ses défauts, quoi. Et je crois qu'on est arrivé à quelque chose de pas mal du tout. Hein. Ouais. Alors, je voudrais quand même préciser une chose, c'est
Je t'en
que je ne
prie.
lui fais jamais dire des choses qu'il n'aurait pas dit,
Ah
hein,
voilà,
bien
ça va être ma
entendu.
question d'après, ouais.
Ah oui, non, non,
Vas-y.
il ne dit en fait que des fragments de son texte.
Oui.
Voilà. Et donc le tout début de l'opéra commence avec quelques mots de Claudel qui sont là, ça, qui proviennent d'une vraie interview qu'il a eue à l'époque. Et puis petit à petit, à chaque fois qu'il intervient, on bascule complètement dans la synthèse, mais en fait, on s'en rend même pas compte, quoi,
Ouais.
tellement c'est bien fait.
Et puis je voudrais terminer, Philippe Leroux, par une question plus générale, par le fait que c'est ici un opéra, c'est votre premier opéra. Qu'est-ce que ça signifiait pour vous d'écrire un opéra aujourd'hui et pour aujourd'hui, ou par rapport aux époques précédentes, bah, culturellement, économiquement, même dans les habitudes, notre relation à l'opéra n'est plus tout à fait la même.
C'est certain, c'est certain. C'est vrai qu'on peut avoir une image un peu parfois un peu vieillotte de l'opéra, d'ailleurs qui existe encore dans certaines maisons d'opéra. Mais à mon avis, l'idée même de l'opéra, c'est-à-dire en fait une narration, une histoire, un drame qui est chanté et avec des chanteurs qui en même temps jouent la comédie. Et tout ça mis en scène, à mon avis, a un avenir incroyable. Je vois absolument aucune raison pour laquelle ça devrait s'arrêter. Par contre, ce qui me paraissait essentiel, c'est que un opéra au XXIe siècle utilise ben, tout simplement les moyens du XXIe siècle. Et ça, on est habitué à ça dans les mises en scène, avec de la vidéo partout, des effets dans tous les sens. Mais pour la musique, on est resté quand même très 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 heureux quoi. Donc là, j'y vais carrément. Mais en même temps, moi, j'ai vraiment voulu garder ce qui fait aussi comment dire le cœur à mon avis d'un opéra, c'est-à-dire une narration vraiment compréhensible. Hein, on comprend ce qui se passe, on suit l'histoire, on n'est pas perdu. Voilà, même si par moments il y a des moments très poétiques qui sont plus de l'ordre d'un travail sur l'inconscient des mots, sur une signification générale comme ça, mais on suit ce qui se passe. Ça me paraît très très important.
Voilà, ce sera donc après Nantes à découvrir à l'Opéra de Rennes du 6 au 9 novembre, puis à Angers le 19 novembre. L'annonce faite à Marie, c'est l'opéra que vous avez composé, Philippe Leroux. Merci beaucoup à vous.
C'est moi qui vous remercie. Au revoir.
Au revoir, c'était un podcast réalisé par Arnaud Vasmer pour l'Opéra de Rennes.